Ce qu'il faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Le pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est reparti. Bienvenue à Wakadi, l'émission de la rupture, l'émission du parler vrai, l'émission de l'ouverture, car la vie est faite d'ouverture, c'est le président qui l'a dit. Mais Wakadi, c'est surtout l'émission du pas de côté. Un pas de côté pour tenter de porter un autre regard sur des phénomènes qui sont simplifiés à longueur d'émissions télévisées, de projets de loi ou de discours politiques. On repart donc pour une nouvelle année autour des questions de sécurité, d'insécurité et d'action sociale. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis à 5h30 et le mercredi à 4h30, il me semble, sur Radio Clapas 93.5. Cette émission a aussi un site sur internet, wakadi.free.fr. Wakadi, ça s'écrit O-A-Q-A-D-I.free.fr. Alors, on est toujours quatre pour animer cette émission, comme les Beatles, hein, Jean-Jacques. Donc, Jean-Jacques, oui, qui est l'homme qui sait faire plusieurs choses à la fois, puisqu'il s'occupe aussi de la technique, tout en discutant avec nous dans cette émission. Salut, Jean-Jacques.
Et puis, précisément, essaye de s'occuper de la technique en même temps que je discute avec vous, mais je lis chaque fois dans mon regard ce qu'il faut dire. Vous êtes tellement beau, tellement précis.
Mais t'as remarqué que si je glisse cette histoire de technique, c'est juste pour signifier que s'il y a des problèmes techniques, donc il faut plutôt écrire à Jean-Jacques qu'au reste des membres de l'émission.
On a déjà vu que les auditeurs avaient tendance à m'écrire pour les problèmes techniques.
Donc avec nous, il y a aussi Marco qui vient juste de vendre ses actions EADS. Donc excuse-moi Marco, mais c'est trop tard, c'est fini, David Initié.
Ruiné.
Voilà. Et Manu qui part demain. Je croyais que tu partais sur l'île de Malte sur un yacht, tout ça. Non, finalement, tu pars en Belgique, il paraît, c'est ça ?
Belgique, ouais. Résoudre le problème des Flamands et des Wallons.
Bon, ben, bon courage, ça a pas l'air très, très compliqué comme problème.
Non, autour d'une frite et d'une bière, je pense que ça ira bien.
Bon, et quant à moi, donc c'est Guillaume, et comme vous avez pu le remarquer, je suis obligé de les supporter. Et croyez-moi sur parole, c'est pas tous les jours facile.
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Alors on s'est quitté juste avant l'été sur un sujet pas facile puisqu'il était question des violences conjugales et on se retrouve sur un sujet tout aussi tragique puisque aujourd'hui va être question de prostitution. Alors tragique, je sais pas si c'est le bon mot, on va en parler. Aujourd'hui c'est Marie-Geneviève Zaroukian qui est notre invitée. Madame Zaroukian, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez quelque chose à dire sur ce sujet puisque vous êtes directrice de l'association La Babote, qui est l'amicale du Nid à Montpellier, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Donc vous vous occupez de personnes, votre association s'occupe de personnes en situation de prostitution ou en risque de l'être. Et d'après ce qu'on a compris, vous allez nous préciser tout ça, hein, il y a plusieurs modes à votre intervention. Il y a un volet d'accueil dans vos locaux ou dans la rue, puisqu'on sait aussi que vous faites aussi des tournées, y compris la nuit. D'accord ? Vous allez au contact des publics. Vous disposez également d'appartements relais, qui vous permettent apparemment d'accueillir des personnes désireuses d'arrêter la prostitution.
Oui.
On en parlera aussi. Et enfin, un volet prévention, puisque vous intervenez dans les collèges, à la fac aussi, et peut-être dans d'autres lieux.
C'est à venir, en tout cas, oui, on en parlera aussi.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi.
Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Jean-Jacques, il paraît que tu allais voir une conférence, toi. Tu veux bien nous en parler ?
Ouais, j'ai voulu faire un peu le malin l'intello. J'ai été voir la conférence de Jean-Claude Michéa, donc c'est...
Oui. Qui c'est Jean-Claude Michéa ?
Ah, enfin, une bonne question. Jean-Claude Michéa, c'est un prof de philo du lycée Joffre, mais il est connu parce qu'il a commencé à faire des bouquins, notamment pour décrypter la pensée politique de George Orwell. Et il fait maintenant des bouquins pour critiquer le libéralisme. Et là, la conférence était une sorte de débat avec Dany Robert Dufour sur le thème du libéralisme.
Qui est Dany Robert Dufour ?
Alors, lui, je le connaissais beaucoup moins. C'est aussi un prof de philo, je crois, Normal Sup Lyon, et qui venait présenter son livre lui aussi, qui critique lui aussi les logiques libérales. Et il a commencé sa conférence, Jean-Claude Michéa, pour revenir à lui, sur présenter un site internet qui s'appelle Ehrento.com, qui est un site internet allemand, et qui a la particularité de pouvoir proposer aux syndicats ou aux partis politiques de louer les services de faux manifestants pour venir défendre
très
des causes.
Très bien, très très bien. Très utile, à quel prix ? Par les temps qui courent.
À quel prix ?
Alors il a donné le prix, je n'ai plus le prix en tête, mais il a même donné le prix. Et il a, je ne sais pas comment, mais il a réussi à interviewer quelqu'un qui bosse pour Ehrento.com et qui expliquait que vraiment, c'est un métier comme un autre. Et à la question, mais ça ne vous fait pas bizarre, un jour d'aller défendre les services publics et le lendemain d'aller manifester contre les services publics. Et la personne qui disait, ben non, c'est comme ça, je veux dire, c'est mon boulot, il n'y a pas vraiment... Le plus important, c'est que je sois conforme à ce qu'on me demande dans mon travail. Et il a commencé par ça, pour pouvoir essayer d'exposer combien le libéralisme évacue totalement les notions de morale, ou les notions d'éthique, ou de déontologie, on va voir peut-être sur les mots qu'on va employer, mais en tout cas, combien le bien, le mal, tout ça, ça passe à côté, et que le plus important, c'est les logiques de marché. Et il a enchaîné, bien évidemment, sur le libéralisme, pour finir, et c'est pour ça que c'était peut-être intéressant d'en parler aujourd'hui, pour finir sur le thème de la prostitution, où une fois de plus, le marché l'emporte sur tout, et il expliquait que tout dernièrement, en Nouvelle-Zélande, ils sont en train de réfléchir à mettre en place une chaire à la faculté de prostitution.
Non.
Totalement. Puisque la prostitution peut être considérée, en tout cas pour les Néo-Zélandais, comme un commerce comme les autres, ben, il faut pouvoir fidéliser le client, il faut pouvoir réfléchir à des logiques d'attraction commerciale, et donc permettre aux prostituées d'être des meilleures prostituées, donc de les former. Et donc on est en ce moment, là, d'après ce qu'il disait, en Nouvelle-Zélande, en train de réfléchir à mettre en place une faculté pour améliorer les compétences des prostituées néo-zélandaises.
C'est depuis qu'ils ont perdu au rugby. Hein,
les joueurs sont mieux. En vente. Les joueurs sont en vente aussi.
D'accord.
Eh ben, j'explique plus,
les All Blacks qui ont perdu, les joueurs sont en vente sur Internet, les supporters les ont mis en vente.
Ah d'accord, ah, mais c'est une... là c'est un canular par contre.
Ah, ouais, mais c'est de la logique de marché, ils l'ont partout, c'est une personne quand même aussi.
Exactement.
Bon, c'est rassurant, pas je suis pas persuadé qu'on vive dans un monde très...
Alors à ce propos quand même, parce que quand on fait un tableau du libéralisme aujourd'hui, quand on entend ce genre de conférencier, d'habitude on en sort complètement déprimé. C'est malheureusement ce qui se passe à chaque fois. Eh bien pas avec Michéa. Parce que Michéa, il conclut, lui, toujours, qu'il y a un commun decency, donc c'est un mot de George Orwell,
un, quoi, hein,
un sens commun, une sorte de sens commun, un sens commun prolétaire pour lui, qui fait que faut pas se méfier, que toutes ces logiques libérales, un peu à la, que prôneraient certaines élites, en fait, il y a plein de gens qui les refuseraient naturellement. Et il prend plein d'exemples comme quoi, finalement, on a beau prôner l'individualisme à tout va, le jour où on voit quelqu'un qui se fait écraser à côté de nous, eh bien, 99% des gens vont essayer d'aller aider la personne. Et il prend tout un tas d'exemples comme quoi, finalement, ces logiques individuelles qui sembleraient être la panacée du libéralisme ne sont pas si bien intégrées que ça, donc il y a encore de l'espoir à avoir. Et ça faisait du bien d'entendre ça, que finalement, on pouvait garder espoir que le libéralisme pouvait ne pas l'emporter tout le temps. Mais il n'empêche que voilà, entre la prostitution en Nouvelle-Zélande ou les syndicalistes qui louent les manifestants, il y a quand même des inquiétudes à avoir.
Bon, mais en tout cas, Manu, tu pourras nous mettre les coordonnées, y compris du bouquin de Jean-Claude Michéa. Ça, ouais, parce qu'il y a un bouquin.
Ouais, le dernier bouquin s'appelle L'Empire du moindre mal, et c'est sur la civilisation libérale, et c'est aux éditions Climat.
Donc Manu nous mettra tout okay. Ça sur le site de Wakadi. Mais ça fait une bonne transition, Jean-Jacques, bravo, t'es fort pour les transitions. Hein.
J'ai travaillé vraiment, ça fait moins de 3 semaines. J'ai demandé à ce que Michéa parle de ça pour pouvoir vous en parler derrière. Enfin, c'était travaillé.
Parce qu'on va parler de prostitution donc avec Madame Zaroukian. Donc j'annonçais un sujet tragique, je ne sais pas si c'est le bon mot, donc vous allez nous dire ça. Moi j'aimerais bien qu'on démarre peut-être par un état des lieux, peut-être de la prostitution sur Montpellier, savoir finalement, on a tous des fantasmes, on entend pas mal de fantasmes aussi qui circulent dans les journaux, dans les médias, sur des réseaux étrangers, sur plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt des jeunes. Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui sur Montpellier ?
Alors, je ne prétendrai pas dire ce qu'il en est globalement, parce que, en fait, les seuls retours que j'ai, c'est ceux des personnes avec qui nous sommes en relation, qui représentent certainement une part, mais une part seulement, du public en situation de prostitution sur Montpellier. Nous, les personnes que nous connaissons, bon, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des moins jeunes, qui sont soit dans la rue, soit qui se prostituent en prenant appui sur les techniques moderne, du genre Internet, voilà, ou les salons de massage, mais très majoritairement quand même, le service est plus en relation avec les personnes qui se prostituent dans la rue, parce qu'elles sont plus accessibles. Alors, faire un état des lieux de la prostitution entre la rue...
Plus fragile, excusez-moi, plus fragile aussi ou...
Je ne sais pas si je dirais plus fragile, parce que je pense que d'autres sont très fragiles dans des lieux privés et soumises à des contraintes sans témoin. Donc, d'une certaine manière, dans la rue, il peut quand même y avoir même un dialogue entre les personnes qui se prostituent, etc. Il y a des témoins, il y a des gens autour. Et ça me paraît vraiment intéressant de repérer que... comme ça, dans la distance, on parle de la prostitution, ce qui pour moi ne veut à peu près rien dire, parce que la prostitution a des visages tellement diversifiés et tellement contrastés qu'au fond, on cherche vraiment à dégager un certain nombre de points communs qui, en dehors du commerce, du plaisir sexuel, peuvent prendre des visages vraiment radicalement différents.
Donc, coup, vous la définiriez comment, vous si ben, vous devez la définir, la prostitution, vous y donneriez quelle définition?
L'acte de prostitution, pour moi, c'est celui de d'accepter des relations sexuelles contre des biens ou contre de l'argent, et de l'accepter dans un pluripartenariat, c'est-à-dire auprès de plusieurs partenaires. Puisque je pense que sinon, on est plus sur de la pratique de michetonnage ou d'échange, qui peut être un terreau à partir desquels la prostitution va pouvoir se développer, mais qui en soi, pour moi, ne correspond pas vraiment à la définition que je donnerais de la prostitution, dans laquelle il y a disons qu'on peut changer et multiplier les partenaires pour cumuler des biens, de l'argent parfois un confort minimum. Celui d'être logé, celui d'être, lorsque la prostitution vient là, combler des besoins matériels, même si ça n'est pas la raison première, certainement, c'est le facteur déclenchant qui va faire qu'à un moment donné, tel ou tel jeune, je parle des jeunes parce que généralement la plupart des personnes que nous recevons ont démarré leur pratique prostitutionnelle dans une période où elles étaient mineures. Pratiquement presque toutes.
Ça, c'est une constante ?
Ouais, à peu près. C'est très, très rare qu'on évoque de la prostitution démarrant au-delà de 18 ans. La plupart ont connu ça déjà très tôt.
Il y a une origine sociale type ? Ou pas du tout ?
Alors.
Justement. Parce que c'est vrai que souvent dans les grands médias, on présente toujours avec une histoire très particulière, venant d'un milieu très modeste, etc. Comme s'il ne pouvait pas y avoir de cassure dans la vie de quelqu'un qui est aisé, ou etc.
Oui, c'est une question importante, parce que, et là aussi, je crois qu'il faut bien repérer d'où je parle. Parce que je pense qu'il y a des formes de prostitution qui n'arrivent pas vers nos services, parce qu'elles sont pratiquées par des personnes qui bénéficient de revenus importants et qui vont plutôt voir leur conseiller financier ou que s'adresser à un service social, puisque je pense que la démarche d'aller vers un service social concerne certainement plutôt les personnes les plus en difficulté dans le milieu prostitutionnel. Ce qui fait que, pour beaucoup, ce qu'on peut dire, c'est que les fractures d'enfance, enfin les histoires d'enfance un peu fracassées, sont vraiment le cas de 80-90% des personnes qu'on rencontre, ce qui ne préjuge pas des milieux sociaux. C'est-à-dire que il peut y avoir des milieux sociaux très fermés, très rigides, qui réactionnellement peuvent conduire des jeunes à des pratiques prostitutionnelles sans que les facteurs de fragilité économique soient majoritaires. Donc je pense que la prostitution de fait doit pouvoir toucher pas mal de monde et pas mal de milieux, sauf que c'est clair, ceux qui arrivent chez nous généralement cumulent plusieurs problèmes et sont certainement des gens qui eux-mêmes sont en difficulté dans leur pratique prostitutionnelle. J'ai travaillé quelque temps à Nice et il nous est arrivé donc de rencontrer des personnes avec des diplômes, voire je sais pas si on a suivi une jeune femme qui était kiné et qui auparavant gagnait bien sa vie, mais qui avait trouvé plus confortable d'aller sur les bateaux, etc. Enfin bon, avec un public haut de gamme. Et bon, ça existe, hein. Je crois que cette prostitution-là existe, ce qui ne veut pas dire qu'on la rencontre massivement sur nos services. Et que le regard qu'elles ont même sur la prostitution n'est sans doute pas le même, en tout cas pas le même au moment où elles peuvent, où elles tirent des bénéfices importants de cette pratique.
Je vais monopoliser la parole, mais à la présentation, Guillaume disait donc vous receviez ce public et en même temps que vous alliez à leur rencontre.
Oui.
Et c'est vrai que c'est assez surprenant de se dire comment vous faites pour aller à leur rencontre. C'est-à-dire que comment vous êtes accueillis. Est-ce que vous êtes bien accueilli, mal accueilli, comment vous arrivez à prendre contact directement, quelqu'un qui vient vous voir, elle qui vient vous chercher ou il vient vous chercher, mais là c'est vous qui faites la démarche, donc c'est déjà plus compliqué. J'ai du mal à y voir clair là-dessus.
Alors en fait, le public vers lequel nous allons, c'est le public qui se prostitue dans la rue, et donc les collègues une fois par semaine, prennent le véhicule, parce que sur Montpellier, la prostitution est relativement disséminée sur les territoires, la prostitution visible, hein, on parle toujours de celle-là. Et ils partent avec un certain nombre de collations, des préservatifs, du gel et de travailleurs sociaux. Et donc la démarche d'aller vers les personnes, c'est déjà, et en premier lieu, c'était leur faire connaître l'existence du service et donc la disponibilité dans laquelle nous étions pour les rencontrer. C'est aussi leur communiquer déjà, quand elles le souhaitent, et la plupart du temps, alors vous posez la question de l'accueil, la plupart du temps, l'accueil il est très 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 chaleureux. Notre présence, sauf auprès de certaines personnes qui sont peut-être plus contrôlées, plus surveillées et de plus près. Mais notre présence est plutôt bien perçue.
Vous êtes aussi perçue comme des gens qui viennent les empêcher
Non, parce qu'on ne se présente pas comme des gens qui viennent les empêcher. On se présente d'abord, et puis franchement, on n'est pas là pour les empêcher. On est là pour éviter toutes les formes d'exclusion qui vont éventuellement s'ajouter à la prostitution. On est là aussi pour leur signifier si et quand elles en sont là, que des alternatives sont éventuellement possibles et que nous allons être auprès d'eux ou auprès d'elles pour les accompagner dans cette démarche si et quand ils en formulent la demande. Et dans le travail que nous faisons, il y a une part de prévention autour de la question de la santé, hein, qui est importante pour quelques-unes, avec outre donc le matériel de prévention que nous amenons, toutes des adresses, des repères qui vont leur permettre éventuellement d'être orientés.
D'autres associations, je crois, continuent elles aussi à faire des tournées et à rentrer en contact avec les personnes prostituées ou en voie de l'être. Comment on pourrait différencier vos différents points de vue ? Est-ce que c'est un débat sur lequel il faut que nous venions aussi. Toutes les associations qui s'occupent de personnes prostituées n'ont pas les mêmes visions de la prostitution. Alors, quelle est la vision que porte la Babote, l'Amicale du Nid, et comment on pourrait distinguer les autres points de vue sur ces questions-là ?
Alors, si on veut radicaliser, je ne vais pas décliner l'ensemble des associations, mais en tout cas, si on veut un petit peu décliner les est-ce que je vais parler d'options philosophiques autour de la question de la prostitution ? C'est un peu un grand mot. Il n'empêche que, grosso modo, le monde se répartit en trois régimes en matière de prostitution, hein, qui sont un régime prohibitionniste. Un certain nombre d'États interdisent la prostitution et sanctionnent les personnes prostituées. Le régime réglementariste...
C'est le cas de la France, excusez-moi. C'est le cas de la France à l'heure actuelle ?
Non. On y reviendra, parce que c'est vrai que c'est un peu... Je radicalise les propos qui, en fait, on le verra au bout du bout, sont relativement à métisser, puisqu'il n'y a pas vraiment de régime complètement pur. Mais bon, la France est un pays abolitionniste, C'est-à-dire, non donc, pas qu'elle a aboli...
Excusez-moi, je vous ai coupé, en fait, il y avait prohibitionniste, c'est ça ?
Voilà.
Ensuite...
Réglementariste, d'accord. C'est-à-dire un certain nombre de pays européens sont en train, tout à l'heure, ce que disait Jean-Jacques, raisonnait pour moi singulièrement autour de la question d'organiser un métier, organiser la prostitution comme un métier. Un certain nombre de pays, sans aller forcément jusque-là, en tout cas choisissent d'organiser des lieux, des temps, de codifier la pratique prostitutionnelle. La France l'a fait un certain temps, hein, puisque la fermeture des maisons closes, c'est un peu paradoxal de parler de fermeture des maisons closes, mais bon, a pointé le moment où la France a ratifié l'abolitionnisme.
C'était et donc, quelle année, ça
j'ai 46, non, c'est pas...
Je sais pas, donc je vais pas... Oui, c'est en tout cas... C'est, voilà, la France a ratifié très tardivement, puisque je pense que elle l'a ratifié la dernière année où c'était possible, je dirais plutôt que c'est proche de 60, c'est-à-dire qu'on voit bien que le législateur a été vraiment dans des hésitations sur les postures à prendre par rapport à la prostitution. Il y a une très forte pression des féministes à cette époque-là, entre autres des associations d'Unis, puisqu'à l'époque n'existait pas la distinction de l'Amicale d'Unis et du mouvement d'Unis, mais pas que, je veux dire... pas mal d'associations féministes après la guerre ont protesté contre ce qu'elles vivaient comme l'enfermement des femmes dans des lieux indignes, quoi. Donc, à préciser que l'abolitionnisme n'est pas l'abolition de la prostitution, mais de toutes les formes de réglementation qui encadre la pratique prostitutionnelle. Je le dis parce que je pense que cette confusion est fréquente.
Alors quelle est la nuance, par contre ? Expliquez-nous la nuance.
C'est quoi la réglementation ?
C'est le système hollandais, là, c'est ça ?
Voilà, le système allemand, le système hollandais, qui définissent les cadres dans lesquels les personnes vont se prostituer et qui organisent de manière... l'État organise et gère la question de la prostitution. En France, donc, ce n'est plus le cas depuis la signature de cette convention qui travaille sur l'idée que les personnes en situation de prostitution sont le plus souvent victimes d'un système, victimes soit des autres, moi je dirais aussi quelquefois de leur propre histoire. Et que les personnes en situation de prostitution sont donc des personnes plutôt à accompagner et à soutenir et à aider pour qu'elles puissent envisager autre chose. Par contre, le proxénétisme est sanctionné et toutes les personnes qui tirent profit des bénéfices de la prostitution d'autrui ou qui incitent autrui à la prostitution peuvent l'être également. Voilà, donc on est en France, en principe, théoriquement en tout cas. Sous un régime abolitionniste. Après, on voit bien que les nouvelles dispositions ou les dispositions qui sont venues avec la loi de sécurité intérieure, avec l'instauration à nouveau du racolage passif qui avait été supprimé et qui a été restauré, c'est-à-dire le racolage passif, c'est une notion absolument arbitraire parce qu'il suffit qu'une personne habillée d'une certaine façon et identifiée comme pouvant avoir des pratiques prostitutionnelles se promène en bas de la rue avec son chien. À la limite, elle a peu de moyens de contredire l'évaluation qui est faite. Hormis, il faut le dire quand même, très peu de parquets ont suivi. Je veux dire, en France, c'est une
loi qui a été
qui a pas pu être suivie des faits.
Par contre, excusez-moi, donc sur le terrain, est-ce que ça s'exprime comment ? Est-ce qu'il y a vraiment une répression, entre guillemets, ou pas ?
Alors, je vais parler, si je parle de Montpellier, je dirais que globalement, il ne s'est pas exercé une répression féroce. On peut dire que sur des villes comme Lyon, il y a eu diverses mesures, y compris prises par la municipalité, à divers moments, des mesures de déplacement qui sont passées par des sanctions qui avaient pour but de déplacer la prostitution. Après, je pense qu'il faut aussi faire le lien entre, entre la prostitution et puis la prostitution étrangère, puisqu'en fait ces lois sont intervenues au moment essentiellement où s'est mis en place la question de où s'est réactivé des réseaux de traite internationale, hein, qui ont démarré d'abord avec les pays de l'Est, qui aujourd'hui semblent plus actifs avec les pays d'Afrique, ou voire même sur Paris actuellement avec la Chine. Hein, la prostitution chinoise arrive sur Paris. Donc on voit bien, suivant les périodes, suivant les rapports entre les pays et suivant la géographie humaine, on va voir arriver des populations différentes. Qui vont réactiver cette question des... Puisqu'en fait, la loi de sécurité intérieure, au départ, pas trop se faire d'illusions, elle a vraiment été faite pour contenir cette forme-là de prostitution.
Une autre forme de prostitution qu'on aimerait évoquer avant la fin de l'émission, qui passe décidément trop vite.
On en fera une autre, c'est ce qu'on dit chaque fois, mais on en fera une autre.
Il faut le dire avant. C'est la question du consentement, parce que c'est une question qu'on entend énormément sur les débats sur la prostitution. Les prostituées qui s'affirment être travailleuses du sexe, et qui disent que c'est un choix qu'elles font de par leur libre arbitre. Alors, quelle est la position de votre association par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on fait de ce discours-là?
Alors, c'est une question difficile. Elle est difficile parce que, moi, il me semble que... ça peut être une interprétation, mais que c'est vraiment important qu'à un moment... Moi, je l'entends comme une manière de nous signifier, par ces personnes-là, qu'elles ne souhaitent ni de notre pitié, ni de notre arrogance, qu'elles ont trouvé là une solution qui, transitoirement ou à plus longue durée, a résolu quelque chose pour elles. Et elles le disent sur un ton de revendication qui est souvent violent. C'est souvent une étape aussi dans l'histoire des personnes. Je veux dire qu'ils passent d'une posture qu'elles vivent un peu comme un bannissement qui viendrait du dehors, et à une posture de revendication en disant, écoutez, voilà, ben moi je le fais, ça vous plaît pas, ben c'est... En tout cas, je vous demande de me laisser faire ce que j'ai à faire. Alors après, moi je pense que malgré tout, la question du consentement, c'est une question sensible. Je veux dire, plusieurs personnes ont écrit là-dessus. C'est un débat très vif entre des courants philosophiques différents. Moi, il me semble qu'il ne faut pas prendre les gens au mot. Parce que c'est quelquefois les prendre au mot que de les entendre à ce premier niveau. Et quelquefois, au-delà de cette revendication, qui est une revendication de... Il y a très vite, lorsqu'on les rencontre individuellement, etc., l'expression de... Franchement, j'aime pas forcément ce que je fais, et même je n'aime pas du tout. Sauf qu'à un moment donné, je me suis trouvé en situation de le vivre, et aujourd'hui, ben, je ne sais plus en sortir. Je veux dire que ça, après, c'est une parole qui vient, mais dans le temps, et qui vient au fur et à mesure d'une... Et j'ai participé à un débat où une ethnologue, dont je tairai le nom parce que je ne souhaite pas lui faire de la publicité, nous expliquait que... qui est connue, hein, elle nous expliquait que la prostitution, ben ma foi... Alors quelqu'un lui a dit, mais si votre fille vous disait qu'elle envisage de se prostituer, comment recevriez-vous cette chose-là? Et cette dame a dit, mais moi, ma fille, jamais je n'essaierai de l'en dissuader. Et j'étais horrifiée, je dois dire, elle m'a franchement tétanisée, j'étais obligée de lui dire, mais écoutez, moi j'ai jamais rencontré aucune femme prostituée, envisagée tranquillement, que tel ou quel que soit son fils ou sa fille, évolue vers la prostitution. J'ai connu des femmes qui m'ont dit souvent, moi je le fais, mais pour que lui ou elle ne le fasse pas. Si j'ai été amenée à le vivre, je ferai, d'accord, j'assume, mais c'est hors de question que mon fils ou ma fille le vive. Et bon, je pense qu'il faut raison garder dans cette histoire-là. C'est-à-dire, c'est un peu, je trouve rassurant ce que tu disais tout à l'heure sur le bon sens, tout simplement, parce que ça, c'est juste. Il me semble que quand on sait ce qu'est le vécu prostitutionnel par rapport au rapport avec le corps, Et par rapport à ce qu'en disent les personnes, ça soulève toute la question de la sexualité, du désir. Et au fond, la question aussi de l'identité qui est posée là, quoi, hein, de qui je suis.
Est-ce qu'il y a une habitude aussi, enfin, qui est ancrée dans les inconscients collectifs, qui est de se dire, ben voilà, c'est le plus beau. Quand on dit le plus vieux, mais le plus beau. Le plus vieux métier du monde, pardon.
Oui.
Déjà, on emploie le mot métier, enfin, on le considère finalement comme si vous étiez chauffeur, enfin, etc. C'est assez. C'est ça où il y a quelque chose de défensif aussi sur cette activité-là, quoi, on va dire.
Quelque chose aussi de banalisant, je veux dire.
Alors, c'est très banalisé, mais en même temps, il y a tout un pan de la société qui va défendre ça.
Juste, on va peut-être stopper là, non, parce je crois qu'on a atteint la fin de l'émission. Donc on va, je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, mais c'est pas une blague. Je pense qu'on va.
Censeur en 2007.
Je suis pas censeur, c'est juste qu'on a une demi-heure sur Radio Clapas et qu'on doit être largement au-delà d'une demi-heure. Donc il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné, notamment qu'on prenne le temps de se dire au revoir. Donc on va faire une émission parce que ce que tu dis c'était important, l'image de la société qui a changé, enfin voilà, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, donc on vous réinvitera éventuellement Madame Zarouki, il y a d'autres intervenants aussi, donc on verra pour traiter toutes ces questions-là qui nous semblent importantes aussi. On va peut-être rappeler le site internet de votre association aussi, si vous ne le connaissez pas. Et bien moi j'ai prévu, en général c'est le piège avec les invités.
Très bien, moi je ne le connais pas.
Donc c'est www.amicaldunitoutquisetient.org, le nid avec un D à la fin, c'est ça Jean-Jacques ?
C'est ça.
Voilà. Voilà, le site internet de l'association Wakadi, c'est Wakadi, O-A-Q-A-D-I, .free.fr. On a aussi un mail, c'est-à-dire une adresse internet, un courriel, vous pouvez nous écrire, wakadi@free.fr. Je remercie tout le monde, merci Madame Zaroukian, merci Jean-Jacques, merci Marco, merci Mamie.
Ciao, bonsoir.
Merci. Ciao, on vous dit à bientôt.
Et le canotier ?
Et le canotier, mais c'est vrai, ah oui. Et comme quoi, tout fout le camp, là. Tout fout le camp, parce que
quand on a... Tu mets des temps, mais tu cours.
Exactement, parce que Mme Zarouquin, sur cette musique, en général, on chauffe nos canotiers et on sort des studios en dansant.
Ah, d'accord.
Voilà, donc on va quand même le faire maintenant.
Ah, bah oui, il faut.
Voilà, donc prenez le vôtre, il est juste à côté, voilà. Tout le monde est prêt, donc on va le faire maintenant. Et donc on vous dit au revoir, et surtout, comme dit Ramon, quoi qu'il arrive, restez vigilants. Au revoir, à bientôt.